Transistor.
C'est la phase B.
Transistor.
Web.
Un arbre est un arbre. Il fait de l'ombre, cache la vue, ou pour certains, certaines, permet de se chauffer. Une plante à fleurs est une plante à fleurs. On pourrait en faire un bouquet ou un décor pour son balcon. Mais qui sait encore que c'est à partir de l'écorce de saule que l'on prépare l'aspirine, que les pissenlits et les épinards sauvages sont délicieux en salade, ou encore qu'une teinture mère de plantain, cette mauvaise herbe parmi tant d'autres, soigne le rhume des foins. Et quand bien même on le saurait, bien peu apprennent à guetter dans les friches et les bas-côtés ce qu'ils peuvent acheter en supermarché ou à la parapharmacie du coin. Quant aux diplômés de la médecine et de la pharmacologie conventionnelle, la plupart se contentent de distribuer sans autre considération les molécules pour lesquelles les labos ont obtenu une autorisation de mise sur marché, passe-partout de leur commercialisation, qui sera peut-être révoquée si un scandale vient mettre au devant de la scène des effets collatéraux inattendus. Contre cette dépossession organisée, un des premiers gestes pourrait consister à retrouver, à coup d'expérience, d'actualisation et de transmission de savoirs étouffés, souvent millénaires, une pharmacologie profane qui rende aux éléments végétaux une partie de leur puissance de soin et de leur essence propre. Mais cueillir, préparer, reconnaître les plantes n'ouvre pas seulement sur des pratiques ou des connaissances à compiler. Cela ouvre sur des mondes au sein desquels les rhizomes ne sont plus seulement végétaux, les herbes ne sont jamais mauvaises, et où partout l'ensauvagement guette. Dans ces espaces, autrement habités, on croisera des vagabondes, cueilleuses, une ronce et une gentiane.
Chère ronce, je marchais hier dans les rues de Nantes. Je fus d'abord frappée de voir, émaillant cette grande étendue lisse, quelques jeunes pousses qui n'étaient visiblement pas décoratives. Les mauvaises herbes montraient leur nez dans la métropole la plus polissée que je connaisse. En observant de plus près, je m'aperçus qu'elles poussaient avec un certain ordre, malgré les apparences. J'appris alors, par l'intermédiaire d'un cantonnier, que la ville les laissait faire, par souci esthétique. J'avais oublié, sans doute, le long de ces boulevards de granit, que Nantes serait bientôt estampillée « Ville verte 2013 ». Alors que plantains et autres vivaces devaient auparavant s'ouvrir des brèches toujours renouvelées dans le bitume, voici qu'on leur en concoctait sur mesure. Par ce geste, on les privait de la démonstration de leur force, qui est force de survivance, en leur aménageant ces trous quadrillés, en lieu et place des lézardes qu'elles savent si bien ouvrir elles-mêmes. L'esthétique les avait avalées. Les avait avalées en tant que mauvaise herbe, c'est-à-dire en tant que puissance, que nuisance au goudron. Par ailleurs, elles étaient devenues jolies, mais n'avaient guère plus d'autre usage que cette prétendue beauté. Je me suis alors rappelé ma grand-mère, qui ne pouvait s'empêcher de faire un détour dans la ruelle où elle était sûre de trouver de la chélidoine. La chélidoine, dont la sève ocrée soigne les verrues. Elle ne la trouvait pas jolie, en tout cas pas seulement. Et c'est entre les pierres qu'elle poussait, si frayant son propre chemin.
En repensant à ta lettre, j'ai laissé mon esprit plonger dans la terre, ses racines, ses champignons, et tous ces êtres qui peuplent nos sols. Tout ça me rappelle, m'emmène là, parmi les vers de terre. C'est étrange, mais lorsque je pense aux vers de terre, je pense à la danse. Le mouvement du ver de terre qui digère la terre et lui donne le souffle des sols ressemble à celui de la danse qui nous amène, dans son battement et son envol, à épouser l'air, à faire trembler la terre, parce qu'elle tient de l'oiseau et qu'elle repose sur le sol. Celui qui apprendra à voler donnera à la terre un nom nouveau. Il l'appellera la légère.
C'est ainsi que je voudrais aborder ce travail collectif que nous avons initié sur le soin. À travers une attention retrouvée à ce qui est déjà là, à ce qui nous entoure. À travers une vision du monde débarrassée à la fois de l'esthétique et de la rationalité gestionnaire, protocolaire.
Je lisais récemment les mémoires de Vera Fichtner, activiste russe du 19e siècle. Elle avait été incarcérée dans une prison spécialement conçue pour son espèce. La plupart de ses camarades y moururent dès les premiers mois. Après 3 années passées là-bas, les gardiens lui accordèrent une balade, à deux, dans un jardin potager. Elle raconte alors ce que c'est que de pouvoir se pencher sur l'épaule d'une camarade. Elle le fait sentir dans son souffle, entre les mots. Elle raconte encore comment elle a pu éprouver de la haine pour cette même amie qui avait arraché une soi-disant mauvaise herbe.
Tu sais, je me surprends encore à affirmer que des choses sont vraies uniquement parce qu'elles sont prouvées scientifiquement.
Peut-être est-ce par là qu'il faut chercher. Il y a des restes à semer. Dans ce que nous appelons le soin, il me semble que les liens peuvent aussi s'incarner dans la main qui se pose et vient chercher une mise en récit.
On riait il y a peu, en lisant que certains couvraient leurs plaies avec des fibres de toile d'araignée. Maintenant, on sait que cette toile contient un puissant antiseptique. Les scientifiques l'ont prouvé, c'est avéré. Alors seulement, on ne rit plus. Mais combien de pratiques populaires devront passer par les labos pour être prises au sérieux ? Ne sommes-nous vraiment plus capables d'avoir foi en nos propres expériences ? Comme tu le vois, je me demande comment aborder le soin. Comment imaginer le dépassement de la médecine conventionnelle ? En partant notamment de nos attachements, de nos rapports au monde, de nos expériences d'accouchement ou de soins aux amis blessés. Tout ça nous a permis de trouver la force, les savoir-faire à même nos liens. Cela sans toutefois se défaire totalement de l'hôpital ou de la chimie.
La guérison se cherche dans les histoires qui nous constituent. Oui, elle nous guide parfois vers les 40 degrés, vers cette fièvre que tant veulent conjurer et qui pourtant peut nous soigner. Je lisais qu'autrefois, la capacité de guérison d'une plante ne devenait effective que si l'on récitait en l'administrant le mythe lié à son usage. Elle retrouvait alors tout son pouvoir. Un texte de Walter Benjamin m'a beaucoup donné à réfléchir à ce sujet, à penser au sujet de cette puissance de la parole. Je le joins à cette lettre, je t'embrasse fort, enfin, Ronce.
Que penses-tu de tout cela, depuis ton expérience ? La pratique quotidienne d'une médecine non conventionnelle a-t-elle aiguisé tes sens ? T'a-t-elle ouvert des pistes ? À tout de suite, je t'embrasse. Jeanciane. L'enfant est malade. La mère le met au lit et s'assoit à ses côtés. Et puis, elle commence à lui raconter des histoires. Comment faut-il l'entendre ? Je le pressentis lorsque N me parla de l'étrange pouvoir de guérir qui se trouvait dans les mains de sa femme. De ses mains, il me dit. Ses mouvements étaient extrêmement expressifs. Mais on aurait pu décrire leur expression. C'était comme si elle racontait une histoire. On sait, d'ailleurs, comment le récit que fait le malade au médecin, au commencement du traitement, peut devenir le début d'un processus de guérison. Et alors, se pose la question de savoir si le récit ne crée pas le bon climat et les conditions favorables pour bien des guérisons.
Et même si toute maladie n'est pas guérissable,
pourvu qu'elle se laisse flotter suffisamment loin jusqu'à son embouchure, sur le fleuve du récit. Songe-t-on combien la douleur est un barrage qui contrarie le courant du récit ? On voit alors clairement qu'il est emporté quand la pente devient suffisamment forte pour entraîner tout ce qu'il rencontre sur son passage, dans la mer de l'heureux oubli. La main qui caresse dessine un lit à ce fleuve.